de Mourico à Montpezat.
Vous écoutez CFM.
Vous écoutez CFM
98.1.
Je vais arrêter de boire.
Ce soir je vais boire. Ce soir je vais boire.
C'est du bon, ce Beaujolais nouveau.
Check, alcool et pédo, mais Salmanie c'est trop malsain. J'ai même plus son état la nuit ou tout le monde.
On t'a déjà dit ou pas mélanger alcool et dancehall. Parce que puis ou fait ça tous ces femmes la cafine folle.
Ces femmes la cafine folle.
Voici le petit type Arrigo qui pilla va tirer l'arigot. Donne-moi une bière que je fasse mousser mon ego. J'approche du cosmos cyclique, bientôt le trou noir, le space conique, l'extraterrestre.
Va le casser, le cerf.
Je m'en réveille, c'est la guerre.
Qu'est-ce qu'il y a par terre, plein de cadavres et de fond de
boire ou bien se conduire. Il faut choisir boire ou bien se conduire. Il faut choisir.
Les chemins mènent au rhum. Et à la vodka pomme, oh, j'adore cette chanson.
Boire ou conduire, il faut choisir. Messieurs, dames, bonsoir. C'est un Qu'est-ce qu'on déguste spécial ivresse.
Qu'est-ce qu'on déguste vous est présenté par Vinovali, union des caves de Fronton, de Técou, des Côtes d'Olt et des vignerons d'Or à Bastens. Vinovali, les vignerons d'Ovalie.
Alors, il faut vous dire, monsieur, dame, que au départ, c'est une idée de Pascal Olivier, cette émission sur l'ivresse. Il nous dira dans quelques instants pourquoi il tenait à faire un Qu'est-ce qu'on déguste spécial ivresse. Salut Pascal.
Salut à tous.
Ça va bien?
Ça va impeccable.
Merci d'être là. Georges, bonjour.
Bonjour tout le monde.
Bon, toi, l'ivresse, c'est perpétuel, donc il n'y a pas de problème.
Oui. Hein?
Christophe aussi, sous mais digne, hein, ça
pourrait
être, ça pourrait être sa devise quand même.
Hein. Oui, toujours digne.
Malheureusement, c'est pas toujours le cas.
De quoi
on aimerait bien. Salut Gaël.
Salut, alors que moi je viens juste là à titre informatif.
Oui, c'est ça, toi tu n'as jamais bu.
Non, c'est la mine première pour moi.
Voilà. Alors, on a décidé d'avoir des invités ce soir pour aborder ensemble le sujet de l'ivresse. D'abord, on a pensé au père Bernard Vachereau, aumônier du 17e RGP, curé de Caylus.
C'est fini.
C'est fini. Je ne sais pas, moi je croyais
qu'on l'était
à vie, ad vitam aeternam.
Non.
Comment doit-on dire bonjour mon père ou
vous dites ce que vous voulez, je m'appelle aussi Bernard.
Bonjour Bernard.
Ouais.
Merci Bernard.
Merci Bernard. Alors.
Et là pour le coup, j'ai un baril qui est dessous.
Alors nous, on a pensé à vous, tout simplement parce que sur CFM Radio, vous animez régulièrement le mercredi à partir de 14h30 une émission sur l'histoire des religions.
Ouais, le mardi à midi et demi.
À midi et demi, oui, pardon, j'ai dit
ouais,
14h30. Et donc, on s'est dit, tiens, ce serait intéressant d'avoir avec nous le père Vachereau pour qu'on lui demande, eh bien, quelle relation il y a finalement à l'alcool et à l'ivresse dans, bien sûr, le catholicisme, mais aussi d'autres religions comme l'islam, par exemple,
et
il m'en manque une, le judaïsme.
Hein. Ouais.
Alors, on va prendre ces trois grandes religions. On va également s'intéresser à l'ivresse en discutant avec Rémi, présent ici. Rémi Bousquet, qu'on a déjà reçu à de nombreuses reprises, qui fait presque partie de la famille. Rémi Bousquet, jeune artiste, travaillant dans le milieu et sur la thématique du vin, du vignoble, de la vigne et des vignerons. Hein, c'est ça, Rémi ?
Exactement.
Ça va ?
Amen. Bonsoir.
Avec une marque que tout le monde connaît maintenant. Ça bouchonne à Paris, ça débouchonne chez nous.
Bravo.
Et nous aurons avec nous par téléphone Jean-Marie Gouriot. Mais si vous connaissez Jean-Marie Gouriot, forcément, c'est l'auteur de ces fameuses brèves de comptoir. Le tome 3 sort là très prochainement. Donc ça me paraissait intéressant aussi de l'avoir lui pour une émission sur l'ivresse. D'autant qu'en septembre, il a sorti un roman intitulé Sextoy, dans lequel il aborde le sujet du binge drinking, c'est-à-dire que c'est l'histoire d'une jeune femme qui va peu à peu boire énormément comme le font les jeunes aujourd'hui, vous savez,
en
buvant d'un coup pour se retrouver, comme à te. Voilà, donc l'alcool. Pardon, Christophe, j'ai pas parlé de Christophe ? Si, oui, voilà. Il me fait des grands signes, Aurélien, pour rappeler qu'en fait, c'est lui qui fait la technique de cette émission. Oui, oui, non, mais tout à fait.
Bon, on trinque.
On va faire ça, donc, dans la gaieté et la bonne humeur, en buvant le jurançon que nous a apporté Rémi.
On aura les vignerons au téléphone.
Alors, j'espère qu'on aura les vignerons au téléphone. Pour le moment, on n'arrive pas à les avoir. On écoutera, évidemment, des morceaux...
chaud.
Chaud, bouillant sur l'alcool, extrait de film.
Il y a des films, il y a plein
de choses. Moi, je vous proposerai tout à l'heure un quiz. C'est qu'est-ce qu'on déguste ? Et ça commence comme ça.
E pode crer mais de 500 mil humanos. Pode crer também em um dialeto suburbano. Pode crer a fé em você que depositamos e fia. Eu odeio explicar gíria. E tenho pra você uma caixa de lama, um lençol de fel pra forrar sua cama. Na força do verso a rima que espanca, a hipocrisia doce que alicia nossas crianças.
Tout à fait. Un artiste brésilien que j'ai découvert cette semaine, son album est excellent. C'est le second, le premier était strictement hip-hop, le second part vers la soul, vers l'afrobeat, vers plein de sons différents. C'est vraiment très très bon. Il s'appelle Criolo. Et lui, pour le coup, je pense qu'il doit boire de la cachaça. C'est bien ça, la cachaça. Ah, oui, c'est bien brésilien, hein, ouais. Criolo.
L'ivresse, selon le dictionnaire de l'Académie française, a pour synonyme alcoolisme, ébriété, enivrement, éthylisme, étourdissement, soûlerie, extase, passion. Moi, je trouve que tout ça, ça fait un petit peu un joyeux mélange des genres. Et dans le cas qui nous occupe, moi, je parlerai plutôt de soulographie bienfaisante et non de pochetronnerie. Soulographie bienfaisante. Mais le mot ivresse, il est souvent sémantiquement rattaché à l'alcool. C'est quand même un peu réducteur. L'ivresse des profondeurs, par exemple, n'est pas du tout due à un bain prolongé dans une baignoire de Beaujolais à 12,5. Pour info, c'est simplement les effets de la dissolution en excès d'azote de l'air dans un corps soumis à pression. Mais revenons à nos ivresses, oui bien, nos ivresses, elles sont nombreuses. Ivresse de l'argent, du pouvoir, du jeu, de l'amour. Elle peut aussi être intellectuelle, religieuse, voire chamanique. Dans ces cas, c'est bien la production d'hormones provoquée par l'excitation qui procure à l'homme cet état d'extase. Comme Rabelais, voyons dans le vin divin un médiateur mystique permettant à l'homme de tutoyer les anges. Comme le dit si bien Antoine Blondin, l'auteur d'un singe en hiver qui en connaissait un rayon, pardon, un litron, dans ce domaine, extrait.
Un ivrogne. Oh ben un peu, oui. Même que le père Bardas qui boit 15 pastis par jour, il n'en venait pas.
Ah, parce que tu mélanges tout ça, toi. Mon espagnol, comme tu dis, est le père Bardas. Les grands ducs et les boissons soif.
Les grands ducs?
Oui, monsieur. Les princes de la cuite, les seigneurs. Ceux avec qui tu buvais le coup dans le temps, mais qui ont toujours fait verre à part. Dis-toi bien que tes clients et toi, ils vous laissent à vos putasseries, les seigneurs. Ils sont à 100 000 verres de vous. Eux, ils tutoient les anges.
Excuse-moi, mais nous autres, on est encore capables de tenir le lit sans se prendre pour Dieu le père.
Mais c'est bien ce que je vous reproche. Vous avez le vin petit et la cuite mesquine. Dans le fond, vous méritez pas de boire. Tu te demandes pourquoi ils picolent, l'espagnol? Et pour essayer d'oublier des pignoufs comme vous. Un ivrogne.
Oh ben un peu, oui. Même que le père Bardas qui boit 15 pastis par jour, il n'en venait pas.
Ah, parce que là, tu mélanges tout ça, mais... mon espagnol, comme tu dis.
Ah oui, eh ben, vous avez reconnu sans doute Jean Gabin. Il a tourné dans beaucoup de films où il pochetronne aussi, pas mal. Hein.
Ça, c'était Un singe en hiver.
Ouais, ça, c'est Un singe en hiver, donc d'après le roman d'Antoine Blondin, 1962, avec Jean-Paul Belmondo aussi. Et là, ils se prennent une cuite, ou des cuites fabuleuses pendant 2 jours. Ben voilà, et on tutoie les anges. Qu'est-ce qu'on en pense?
Alors,
oui, pourquoi pas?
Bah oui, alors c'était la première question en fait, l'ouverture vers vous, Bernard Vachereau, curé de Caylus, spécialiste des religions. Donc, tutoyer les anges.
Oui. Est-ce qu'on peut boire son litron sans se prendre pour Dieu le Père?
Ah, oh, bien entendu, hein. Bien entendu, hein. Bah, c'est ce que je fais tous les jours, mon cher, voyons.
Alors, déjà, il y a dans les religions un rapport à l'alcool et à l'ébriété qui est... Alors, on a dit qu'on faisait une émission sur l'ébriété, sur l'ivresse.
J'entends bien, oui.
Mais il y a un rapport qui est resserré tout le temps. Est-ce qu'on prend des cuites, par exemple, dans la Bible?
Alors, pour... mais évidemment, c'est-à-dire que... Bon, si je prends déjà dans les religions latines ou les religions d'origine grecque ou qui ont eu des influences, bon... Il est vrai qu'en latin, l'ébriété se dit ebrietas. Vous voyez qu'on est resté très proche.
Ebrietas, hein.
Bon.
Ouais.
Par contre, le grec va distinguer, hein. Vous allez avoir l'état d'ivresse, pour être plus précis, hein, qui va se dire par olen o. Vous voyez? Ça, c'est l'état d'ivresse. C'est l'état mystique, hein. Mais c'est aussi un état très charnel, hein. Bon, il faut pas exagérer.
Parce que l'ivresse, c'est mystique, ouais. C'est...
Ah, mais il y a une dimension mystique. D'ailleurs, il y a un bouquin qui a été écrit il y a plusieurs années déjà. J'ai oublié le nom de l'auteur, malheureusement. Poison sacré et ivresse divine. Ça traite des drogues, par exemple, en Amérique latine, hein. Avec le peyote, etc., etc. Bon.
Mais c'est vrai qu'on on utilise souvent des substances, alcool ou drogue,
pour tutoyer les anges,
pour parler avec Dieu. Est-ce qu'on l'utilise, enfin est-ce qu'on retrouve des traces de ça justement
dans la Bible? Dans la Bible, il y avait Noé et Lot qui se sont enivrés, donc quand même.
Exactement.
Qui ça?
Noé et Lot. Mon cher, il va falloir que je vous donne des cours de Bible.
Ah, moi j'ai raté le catéchisme.
Il va falloir aller au catéchisme.
Bien. Mais il est vrai que, strictement parlant, le monde juif, le monde de la Bible, n'aime pas beaucoup l'ivresse ou l'alcoolisme. Hein? Par exemple, si je prends, à partir du 7e siècle, ça c'est mon domaine, c'est l'histoire là, hein? Bon. 7e siècle, vous avez un homme comme Habacuc. Bon.
Ça ressemble un peu à Bacchus, à Habacuc, hein, quand
même.
Vous terminez par un faux ami.
Bon. Et pour lui, eh bien, l'alcool fait que l'homme perd la face. Il perd la face. Alors ça, vous allez le trouver dans Habacuc 2.15, par exemple.
Mais alors, donc forcément, c'est quelque chose de négatif, l'alcool, et l'ivresse. Parce qu'il y a quand même le vin de messe en permanence.
Pour les religions juives, chrétiennes et musulmanes, il y a surtout le négatif qui domine.
Ouais.
Mais attention, il faut bien distinguer alcool et ivresse. Hum. Deux termes très différents.
Tout à fait.
Bon. Si je prends l'ivresse, il y a l'ivresse mystique, l'ivresse spirituelle, et on va dire que certains ou certaines grandes mystiques ont connu des états. L'extase n'est pas très loin de l'ivresse mystique. Hein? Bon, vous avez même une qui est Sainte Brigitte de Suède, qui au XIVe siècle écrivait un livre qui s'appelait « Les Révélationes ».
Sainte Brigitte.
Et les révélationnes, elles engueulent les papes d'Avignon en leur disant « Vous devez revenir à Rome ». Mais apparemment, quand on lit ses écrits, on peut se demander si elle n'était pas...
Si elle n'était pas un peu bourrée.
Dans
quoi.
Une autre forme d'ivresse.
Ah bah, ils sont restés à Avignon parce qu'ils avaient le Châteauneuf du Pape pas loin.
Ouais.
Mais écoutez...
Sans aller dans tous les sens, moi j'aimerais juste quand même, parce que tu dis qu'il y a eu... Ça paraît simple à tout le monde, je suis désolé, mais c'est quoi cette histoire d'enivrement entre Lot et l'Arche de Noé?
On va demander. Là, il y a la Bible.
Là, non, mais c'est quoi cette histoire? Pourquoi ils se bourrent la gueule tous les deux?
Ben, vous savez, c'était pas vraiment marrant, hein, la vie dans leur temps. Bon. Et ça y est, ils se sont tranchés. Ben, ça y est, c'est bon. Hein.
C'est tout. Ah oui, c'était pour.
Bon, ben.
C'est une histoire sur la terre.
Oui.
Pour passer le temps. Bon, d'accord. Tiens, moi je me suis amusé à faire des petites recherches sur les chansons et bien sûr l'alcool dans les chansons, l'ivresse dans les chansons, c'est vraiment un des sujets.
Il y en a.
Voilà, il y en a aussi.
Il y en a aussi.
Et donc, dès le Moyen-Âge, tiens, et grâce à Trianne, en fait, vous connaissez Trianne,
c'est
je
ne
savais pas, c'était un groupe du Moyen-Âge,
ils ont exhumé les chansons traditionnelles moyenâgeuses, bretonnes et autres d'ailleurs. Et il y avait ce chant-là, par exemple, de Trianne.
Qui veut chasser une migraine n'a qu'à boire toujours du bon. Et maintenir la table pleine de cervelas et de jambon. L'eau ne fait rien que pourrir le bon. Bout, 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 compagnon. Vide-nous ce verre et nous le remplirons. L'eau ne fait rien que pourrir le bon. Bout, 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 compagnon. Vide-nous ce verre et nous le remplirons. Le vin goûté par ce bon père qui s'en rendit si bon garçon. Nous fait discours sans grammaire et nous rend sa mort sans leçon. L'eau ne fait rien que pourrir le poumon. Poumon, bout, 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 compagnon. Pagnon, vide, nous se verre et nous le remplirons. L'eau ne fait rien que pourrir le poumon. Poumon, bout, 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 compagnon. Pagnon, vide, nous se verre et nous le remplirons.
L'eau ne fait rien que pourrir le poumon, vide-nous ce verre et nous le remplirons. Voilà, une vieille chanson moyenâgeuse, hein.
Oui, peut-être pas si loin d'ailleurs, parce qu'au XVIIIe siècle, il y avait les médecins qui recommandaient de se prendre une bonne cuite par mois pour rééquilibrer les humeurs. Ça faisait du bien.
Oui, ça faisait du bien. Enfin, ça dilatait les vaisseaux, de toute manière. Et nous, on est en train de déguster du Jurançon. On a dit donc, j'aimerais donner la parole un petit peu à Rémi. Déjà pour nous présenter ces vins qu'on est en train de boire.
Ben alors, écoute, c'est une rencontre. L'année dernière, rencontre Facebook. Donc producteur dans le Jurançon. Il me contacte pour m'inviter pour ses premières portes ouvertes. Donc on se connaît pas du tout.
Qu'est-ce que tu vas y faire? Pourquoi on t'invite là-bas?
Ben, en fait, maintenant, c'est vrai qu'on m'invite pour exposer donc mes tableaux, pour dessiner. Je fais pas mal de dessins aussi en direct durant les journées. Et après, j'arrive avec ma petite boutique, donc les t-shirts, les tabliers, les cartes postales, les affiches, etc. Mais j'amène un peu, on va dire un vent un peu léger, décalé, humoristique, quoi, sur la journée. Et maintenant, c'est vrai qu'avec le temps, je suis de plus en plus demandé, donc que ça dure, c'est intéressant.
Et puis en plus, ils t'envoient des bouteilles, tu les dégustes avec nous, on va continuer.
Et après, voilà, donc l'avantage, c'est que après, c'est vrai que moi, ça me fait plaisir aussi de venir les partager avec vous. Et derrière, il y a aussi un choix, c'est-à-dire que je me déplace pas non plus n'importe où. Là, c'est vrai qu'il y a eu j'ai senti un feeling dès le départ. C'est quelqu'un qui est, ils sont d'une générosité incroyable. Ils sont
vignerons de père en fils et en fille depuis 1676. Ouais, non, mais c'est incroyable. Même endroit.
C'est incroyable.
En plein dans le Jurançon. En Jurançon, c'est derrière Pau.
C'est leur Pau. Oui. Ouais.
Donc il y a le Jurançon, c'est toujours moelleux. Et après, quand ça s'appelle Jurançon sec, c'est sec.
C'est du
pas,
sec.
C'est pas sucré, c'est pas doux. Donc c'est du gros Mansing, du petit Mansing.
Gros Mansing, petit Mansing.
Et vendange tardive.
Et vendange tardive. Et puis avec cette, enfin c'est vrai qu'on en parlait tout à l'heure. Ce qui est intéressant dans le Jurançon, c'est cette légère acidité en fin de bouche.
Oui, c'est que... ça t'empâte pas la bouche. C'est
ouais,
pas.
C'est pas comme d'autres moelleux, ouais, qui sont beaucoup plus sucrés, qui.
Allô.
Oui.
Oui, bonjour. Je voudrais parler à André Bordenave, s'il vous plaît.
Lui-même.
Bonjour, Rémi Teruella. Vous êtes en direct sur CFM Radio dans l'émission Qu'est-ce qu'on déguste? Nous sommes en compagnie de Rémi Bousquet.
Salut André.
Adichat, Rémi.
Adichat.
Adichat Spla. On est en train de déguster votre vin, monsieur Bordenave.
Les copains d'abord. Ouais.
D'accord.
À tous.
Et. C'est une bonne idée, ça.
Ah bah oui, c'est une bonne idée. Et du coup, on a eu l'idée de vous passer un coup de fil, quand même, pour que vous nous présentiez un petit peu le domaine Bordenave. Donc, visiblement, c'est de père en fils depuis quelques générations, hein, si j'ai bien compris.
Voilà, donc c'est mon épouse qui est vigneronne. C'est un jeune domaine, mais enfin, on va fêter les 20 ans l'an prochain du domaine. Le domaine fait partie de l'association La Route des Vins du Jurançon, qui va fêter juste pendant 8 jours. Le dimanche 9 décembre, les portes ouvertes en Jurançon. Nous sommes un petit domaine de 12 hectares, donc c'est un domaine familial. Il y a la cuvée que vous êtes en train de déguster, c'est les copains d'abord. Donc c'est élaboré à partir du cépage Gros Mansing, et c'est un vin frais, agréable et qui à l'apéritif ou avec quelques desserts ou du foie gras.
Oui, avec du foie gras, ça peut le faire, hein, ça marche très très bien. Hein. C'est un vin au niveau de la distribution que vous vendez comment?
On a une grosse, un tiers particulier, un tiers export, un tiers cavite restauration.
D'accord, export en direct vers qui? Vers la Belgique, la Suisse
Oui, bon, l'Europe, oui, c'est une bonne question puisque qu'on est... Pour nous, tous les pays européens sont, en termes de vin, sont de l'export, puisque les démarches de déclaration, tout ça, et de vente sont aussi importantes qu'au reste du monde, que ce soit les États-Unis ou la Chine.
Voilà. Ah, mais vous exportez aussi en Chine, alors.
Voilà.
C'est grosse production, le Jurançon.
Non, c'est 70 000 bouteilles.
Donc, petit domaine.
Ah ben voilà, bon, en tout cas, il très est plutôt bon. Sympa. Et pourquoi vous avez choisi cette étiquette là?
Non, les copains à bord.
Non, la fameuse main, c'est qui que cet artiste?
Michel-Ange.
C'est Michel-Ange.
C'est la dernière création d'un ami peintre, artiste peintre, qui est décédé, c'est sa dernière œuvre. Il avait très rapidement sympathisé avec nous et puis bon, notre devise c'est le plaisir partagé, donc peut-être le rapprochement des deux mains et des deux verres, il a voulu en faire quelque chose de pictural.
Oui, puis ça marche bien, c'est ce fameux tableau qui est détourné.
Est-ce que vous payez les royalties au Vatican? Parce que c'est sur le plafond de la chapelle Sixtine quand même.
Ah, c'est ça, hein.
Qu'est-ce que c'est que cette histoire de royalties?
Ils sont capables de tout. Ils sont capables de tout.
Le bûcher.
Je vais te faire excommunier en direct à la radio.
Bon, en tout cas, voilà, on voulait vous passer un petit coup de fil et puis vous dire bravo pour votre vin. On vous envoie.
Et on donne rendez-vous à tous les adoreurs de la bonne table, de la bonne chère et de la bonne ambiance le jour des portes ouvertes en Jurançon et particulièrement dans notre domaine, petit domaine où Rémi crée aussi un peu une sorte d'égrégore dans notre chez et il participe au plaisir partagé qui se joue là ce jour-là.
Donc ça c'est la semaine prochaine
Rémi.
Oui,
c'est le 9, dimanche 9 décembre. Hein. Donc sur la route des Jurançons, il y a 46 domaines en tout, je crois. Et c'est vrai que ben moi, je serai donc avec André et Gisèle au domaine Bordenave à Monin.
Il y aura aussi les vins pas trop loin de chez vous, de Philippe et Francis Cabrel, domaine du Boiron, d'Astafort. comme l'an passé, ils viendront faire déguster leur vin.
Il y aura Francis. Ouais, il y a Francis, il est derrière un estanquet, là, comme ça, ah, et puis il
Francis,
fait.
Francis, il est a priori par rapport à son actualité, mais.
Bon, cette année, c'est Shakira.
Il est dans la cabane au fond du jardin.
Il est dans la cabane au fond du jardin. Merci, monsieur Bordenard. Allez, bonne continuation.
À 17. À 17, André.
Je vous rappelle que c'est quand même un Qu'est-ce qu'on déguste qui est spécial ivresse, donc vous ne couperez pas à ce tour de table que nous ferons disséminer jusqu'à la fin de cette émission sur vos cuites mémorables. Et forcément, je commence par Rémi parce que je sais qu'il n'a aucun complexe là-dessus, lui. Et donc, raconte-nous en quelques minutes une cuite mémorable.
Bah, écoute, moi je dirais que c'est quand je suis pas cuit que c'est mémorable déjà, mais non, une cuite mémorable. Hein. Je pense que comme beaucoup ça va être enfin je sais pas moi c'est pour moi c'est la première c'est là où tu découvres vraiment le les joies et les malheurs de
du monde.
À quel âge ta première ivresse alors à quel âge
ça devait être aller à je pense que je devais avoir 16 ans à peu près ouais. 16 ans donc whisky coca Et mon père s'en souvient, la voiture de mon père s'en souvient.
Pourquoi t'as piqué la voiture à ton père?
Non.
Il a vomi partout.
Voilà. Ah oui, t'as vomi.
Ah ben oui.
Et c'était quoi? C'était une boum? C'était.
Ah c'était oui, c'était une petite soirée entre amis qui s'est terminée comme voilà.
D'accord.
Mais c'était la première et donc et c'est vrai que derrière du coup, alors je ne bois absolument plus de whisky. J'ai aujourd'hui 36 ans. Je ne bois toujours pas de whisky, ça m'a dégoûté du whisky jusqu'à aujourd'hui. Voilà. Ah ben, donc je me suis mis au vin, mais au bon vin, parce que la vie est trop courte pour boire du mauvais, donc autant boire du bon.
Merci pour ce petit témoignage. On fera un tour de table hein, tout au long. Il est inquiet, Gaël. Mais... Choisis bien parmi toutes les cuites une à nous raconter.
Qu'est-ce ça m'est jamais arrivé, donc j'ai du mal à trouver.
Qu'est-ce qu'on déguste?
On t'a vu.
La suite dans quelques minutes.
CFM à Montauban. Montauban. 101.2. 101.2.
Qu'est-ce qu'on déguste avec Vinovali, cave de Fronton et des Côtes d'Olt. Vinovali, les vignerons d'Ovalie.
Alors on peut dire que tous ceux qui pratiquent régulièrement cette émission traînent quand même leur guêtre assez régulièrement aussi dans les bistrots près des comptoirs. On s'y intéressera à ces comptoirs avec Jean-Marie Gouriot tout à l'heure, l'auteur du tome 3 des Brèves de comptoir qui sort très très prochainement. Voilà un homme qui traîne dans les bars pour écouter justement ce que disent les piliers de bar après avoir bu quelques verres. Parce que généralement...
Quand même, des fois, ils sont à sec. Hein.
L'alcool, voilà, langues...
Mais des fois, ils racontent quand même des conneries à sec. Hein.
C'est vrai, ils le font. Pascal Olivier, Georges Bonfils, Christophe Bory, Gaël Stenbach. Voilà l'équipe de Qu'est-ce qu'on déguste aujourd'hui pour accueillir Rémi Bousquet, qui nous a gentiment apporté du Jurançon, et l'abbé, à chaque fois, j'ai du mal avec votre nom, excusez-moi,
l'abbé Vachereau.
L'abbé Vachereau de
Bernard
Caylus, qu'on a tenu à inviter. Merci, mon verre est plein.
C'est le moment de le vider.
Et qu'on a voulu inviter pour voir quelle place avait finalement le vin dans ces religions.
Je sais pas en placer une.
Oui, c'est ça. Voilà,
40%
c'est ça.
Des accidents sont provoqués par l'alcool. Ce qui fait que 60% sont provoqués par des buveurs d'eau. Hein? Ça fait partie des brèves de comptoir.
Ça fait partie des brèves de comptoir. Mais alors, on les ressortira tout à l'heure quand on passera un coup de fil à Bernard Gouriot.
Les buveurs d'eau sont dangereux.
Oui, pourquoi?
Bah oui, parce qu'ils provoquent 60% des accidents.
Mais ce sont de vraies statistiques.
Ah oui?
Ouais, oui.
Un peu de musique, peut-être, là. Hein, on a un titre. Allez, c'est parti. Oula.
L'intro est longue.
Voilà de la musique festive, oui. Pâté de canard à l'ail de la ferme de la Grande Borde. Ça, c'est un reste du question déguste de la semaine dernière.
Oui, ça a bien goût à l'ail.
Oui, c'est à l'ail.
Le pâté à l'ail, en général, ça goût à l'ail.
Tiens, Rémi.
Et puis ça.
Sinon, c'est du foutage de gueule.
Oui, mais c'est bon.
Vous allez voir vos fiancées ce soir si elles vont être contentes.
En plus, je vais au Rio.
Ça, c'est mon avantage. Ça, c'est le bon avantage.
C'est sûr.
Attention, comme disait l'abbé Pierre Pirgan, on est chez nous, on est curé de père en fils.
Vous avez connu Pierre Pirgan? Vous avez connu Pierre Pirgan?
Oh, c'est vrai, c'est lui qui m'a baptisé en plus. J'ai retrouvé à Franck des années après.
De raisin pour remplir le vin de l'Eucharistie. Tout à fait. Alors on va en parler, tu vas voir pourquoi.
Ce morceau, parce que c'est sur ce morceau que je me suis pris ma première cuite en Espagne, Rémi, à 17 ans, à côté, voilà. À côté de Rosas, Cañeles, au Beach Club, un club au-dessus d'une plage.
Et voilà. Tu te souviens de quelque
chose? Oui, de ce morceau précisément.
Et alors,
c'était pas vrai du tout, le morceau est sorti.
C'était comment?
Non, mais c'est tout après, voilà. Comme Rémi, c'est effectivement la première expérience qui est la meilleure. On se demande pourquoi on continue après.
C'était avec quoi comme alcool?
Ah, tu sais, à l'époque, des mélanges, il devait avoir de la vodka, il devait avoir du Malibu, tu sais. Ouais. Jeune, on boit n'importe quoi. Des mauvais trucs.
Saloperie hardcore.
Alors, voilà.
Si en drogue, souvent, on dit qu'on court toujours après le premier fixe, en alcool, c'est pas vraiment vrai, hein, parce que la première cuite, c'est souvent assez dégueulasse, on vomit partout.
C'est la rédhibitoire.
On recourt pas après la première cuite.
C'est leur sucé qui fait mal.
On espère ne pas y revenir à la première. Bernard Vacherot, ce vin de Metz, pourquoi il existe? Pourquoi il est là, ce vin, en permanence?
Alors, rappelons-nous que le Moïse, devant partir justement avec le peuple pour l'Exode, les rassemble et on tue l'agneau, voilà. Et là commence le grand Exode. Ouais, c'est la tradition, hein. Ça c'est vers 1250 à peu près que cela se situe, avant Jésus-Christ, bon.
Mais là, on ne boit pas de vin à ce moment-là.
Et si, il y avait du vin, mais qui était traité très différemment. Bon, on sait bien, par exemple, que dans un peuple qui n'est pas le peuple israélite, mais qui était le peuple romain, tout simplement, on sucrait le vin. On le sucrait de telle manière, même en Grèce et même au Proche-Orient, qu'il en deviendrait aujourd'hui imbuvable. Pour un palais du 21e siècle, ça serait imbuvable. Alors quand on me dit, parce que je fais aussi de l'archéologie, bon, que dans les jarres romaines ou autres, ou grecques, on a trouvé des vins, c'est super, des vins vieux, excellents.
Oui.
Tu y goûtes une fois.
À la base, ils sont pas
tu ne reviendras plus jamais à le goûter.
Bon,
absolument. Alors, le vin qui était utilisé pour la Pessah était très miellé, hein. D'ailleurs, l'hydromel,
oui.
Hein, d'accord. Et puis, par la suite, bon, ça s'est transmis. Le Christ a repris le vin, par exemple, pour la fête de la Pessah au temple, hein, de Jérusalem. Il a dit, prenez et buvez, ceci est mon sang. Bon.
Mais et oui, puis... mais alors qu'est-ce que ça veut dire, ça, exactement? Ceci est mon sang. C'est-à-dire qu'on va se rapprocher de... C'est un peu ce que disait Pascal tout à l'heure. On se rapproche de Dieu en buvant du vin. C'est quoi l'idée?
Alors, ça veut dire quoi? Le sang, c'est la vie. C'est la vie. Mmh. Le symbole de la vie. Hein. Et étant donné que c'est la vie, le Christ donne la vie. Il est l'antimort. Si vous voulez, un peu comme Eugène Leroy, par exemple, et qui n'avait rien d'ecclésiastique, bien au contraire, au XIXe siècle, avait écrit L'ennemi de la mort, hein, entre autres, et c'est lui qui avait aussi écrit, par exemple, Jacques le Croquant, etc. Bon. Et dans L'ennemi de la mort, on voit là un médecin de campagne qui recommande de boire du vin en disant, mais c'est la vie qui coule dans vos veines. Eh bien, on peut établir un parallèle avec, justement, le sang du Christ, la vie qui donne, qui est donnée à l'humanité. Hein? D'ailleurs, sur la croix, il est transpercé et il en jaillit aussitôt du sang et de l'eau. Du sang symbolisé par le vin. Hein? Alors, le vin a toujours fait partie des liturgies, même très anciennes. On le retrouve, par exemple, chez les Sumériens, on le retrouve en Mésopotamie, Babylonie, etc. Bon, là, on pourrait faire une filiation extraordinaire. Et il a été repris par le christianisme. Repris par le christianisme, eh bien, il donne la joie. Si, par exemple, je prends l'évangile de Saint-Jean, je vois les noces de Cana. Aujourd'hui, c'est la grande dispute entre Israël et le Liban. Cana est-il en Israël ou est-il au Liban? Alors, il y a une très, très grande dispute. On ne va pas rentrer dedans.
Non.
Mais, eh oui, si j'ose dire. Voyons, mon cher, voyons, à quoi pensez-vous?
Non.
Surtout à notre époque, ça devient risqué. Hein.
Mais le vin, donc, au milieu
de... Oui, alors ça... justement, j'y viens.
Bah oui, il faut que ça tourne.
Les jarres qui portaient ce vin... D'abord, on les enterrait dans la terre, elles étaient énormes, hein. On les couvrait de peaux de bête, et quand on les sortait pour une fête, par exemple, j'aime autant vous dire que ceux qui portaient les jarres savaient d'où elles venaient. Hein. Et quand, par exemple, à Cana, on dit au Christ, ben, ils n'ont plus de vin, fais le rang. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? On veut dire, ils n'ont plus la joie, ils n'ont plus la vie, ils n'ont plus la fête. Et c'est là que le Christ dit, mais non, je ne veux pas le faire parce qu'il a pris, il a peur d'être pris pour un saltimbanque. Hein. Et pour finir, il le fait, il cède à sa mère, il le fait, et c'est la joie. Et alors là, très très intéressant, on voit que le vin, donné par le maître du repas, ce maître du repas, c'est un truand. Le type, il s'est dit, bon, ben écoutez, je vais balancer... quelques bonnes bouteilles au début, et ensuite les pourries. Mmh. Bon, et qu'est-ce qui se passe? Bien, toutes les bouteilles pourries, elles ont été bues, et le meilleur vin, c'est quand même le Christ qui le donne. Fureur du maître du repas, qui dit, mais attends, là c'est contre moi ce truc. Hein? Bon, et c'est très passionnant, parce que ça montre que justement le Christ donne le meilleur vin, la meilleure vie, la meilleure espérance, et c'est lui qui est vraiment la fête.
Eh ben alors,
c'est ce qu'on appelle le clou du spectacle.
Ouais. Tout à fait. Alors, c'est... Bon, allez. Mon ami et voisin,
écoutez, si on a qu'à se faire croyant.
Je voudrais peut-être rajouter une chose, c'est que Charlemagne, dans un capitulaire de 812, il interdit aux prêtres de devenir des ivrognes.
Oui.
Faut le faire quand même.
Oui,
parce que vous l'étiez.
Oui, à force.
Ta première cuite, Pascal, s'il te plaît.
La première, je m'en souviens pas, j'ai un trou noir de 24 heures, mais j'en ai des mémorables. Non, 48 heures, pardon, le trou noir. Là, c'est, je ne sais plus.
Quel âge?
Non, j'en ai des mêmes. 15, 16, trucs comme ça. Pas la première, mais. Enfin. Ouais, une grosse quand même. Mmh. Mais après, des grosses mémorables, oui, il y en a eu. Tourner des bistrots de Paris avec des pochetrons de notoires toute la nuit. Mmh. Et puis toute la journée aussi. Donc.
Avec quelle idée? Dans quel but?
Dans le but, eh ben, de regarder si on pouvait tenir et puis rigoler et puis dire des conneries et puis plus tu dis des conneries plus t'en dis d'autres
et à la bière etc. ou
de tout des mélanges bière vin
tout ce qui passe tout. Ah bravo.
Voilà, pareil, je ne bois plus de vodka, je ne bois plus de whisky, je ne bois plus de calva, je ne bois plus de vermouth, je ne bois plus de donc du vin maintenant, ça va.
Je ne bois plus de calva depuis la semaine dernière.
Ah non, je n'en bois plus de calva. Ah non, c'est pas vrai, le calva je n'en bois pas.
Ni de prune ni de poire.
Ah non, jamais pris de bourre à la prune à la poire.
Non, tu viens dire que tu n'en buvais plus.
Voilà.
Une brève de comptoir, s'il te plaît, Pascal.
Oh, une brève de comptoir. Boire comme une éponge n'efface pas les ardoises.
Avec nous, par téléphone, Jean-Marie Gouriot, l'auteur des célèbres brèves de comptoir et de tellement d'autres choses. Jean-Marie Gouriot, bonjour.
Oui, bonjour.
Merci d'être avec nous dans Qu'est-ce qu'on déguste sur CFM Radio. On tenait à vous avoir dans cette émission sur l'ivresse, un peu comme une sorte de grand sage, de professeur.
D'ange tutélaire.
C'est gentil.
Et alors, au départ, en fait, ce qui m'a attiré vers vous, c'était pas vraiment... Les brèves de comptoir, c'était votre autre roman qui est sorti en septembre, Sextoy, dans lequel vous racontez l'histoire de cette jeune fille qui part un peu à la dérive et notamment au travers de cette mode qu'ont les jeunes de boire très très vite et très très fort de l'alcool, le binge drinking.
Oui, c'est ça, c'est une gamine de 13 ans donc qui zone un peu avec toute une bande d'ados. Alors là, on est vraiment loin de l'ivresse et des plaisirs de l'ivresse, hein. C'est-à-dire que c'est l'alcool violence. Donc c'est une mode qui nous vient des hooligans anglais.
Ouais.
Et donc c'est l'alcool défonce. Donc ce qu'ils appellent dans les urgences et dans les hôpitaux, c'est l'alcoolisation paroxystique intermittente. Donc en effet, c'est pas très épicurien. Et donc c'est boire le plus vite possible pour tomber. En fait, c'est une espèce de suicide de l'adolescence par l'alcool. Et ça, c'est des trucs qu'on voit beaucoup. Dans les concerts, dans les fêtes, les férias de Nîmes, de Béziers, les fêtes de la musique. Les urgentistes et les pompiers ramassent des gamins qui ont 14-15 ans, à 2-3 heures du matin, sur les trottoirs des villes, ou alors sur les plages, ou alors dans les parcs, avec 2,40 grammes, avec des comas éthyliques, quoi.
Ouais.
Donc alors là, voilà, ça c'est un suicide, et donc le bouquin parle de ça, cette espèce de violence extrême qu'ont ces gamins-là envers eux-mêmes, et c'est l'alcool qu'ils vont acheter dans les grandes surfaces et qu'ils boivent entre eux. Mais un peu caché, enfin, c'est-à-dire que dans les squares et tout ça, c'est la différence avec les bars, où justement la prise d'alcool et tout ça nous amène à l'ivresse, parce que c'est une alcoolisation en groupe, sociabilisée et visible, c'est-à-dire que toutes les bandes qui sont dans les bistrots, ils boivent des coups, et même s'ils se saoulent la gueule, c'est pas comme une espèce de petite mort qu'on se donne cachée dans un square.
Oui, cette alcoolisation dans les bistrots, c'est un peu... celle qui va nous permettre bien de dépasser un peu notre timidité, de rentrer en contact avec l'autre finalement, et puis d'avoir une relation sociale, quoi.
Oui, c'est ça, c'est à s'augmenter, avoir moins peur, être plus loquace, et ça permet de rester longtemps. Le bistrot permet de passer des heures à boire des verres et à discuter. Alors au bout d'un moment, il y a des choses du fond qui remontent, quoi. Donc c'est des endroits, c'est une espèce de sénat comme ça qui sont ouverts dans la ville, et l'alcool permet... grâce à l'ivraie, justement, de créer des liens très, très forts et très rapidement. Et puis ça peut se défaire en 5 minutes, quoi.
On voit l'apéro. Et est-ce que la profondeur de la pensée dépend du nombre de verres ingérés?
Non. parce que des fois, moi, je note des petites phrases dans les bistrots le matin, quand c'est des gars qui vont casser et qui boivent des cafés. Ils disent des choses aussi extrêmement jolies. Ils parlent de boulot, ils parlent de leur gosse, ils parlent de leur projet. Et là, il n'y a pas d'alcool, ils sont au café.
Oh, Jean-Marie Gouriot, ça veut dire que les deux premiers, vous les avez fait le soir, et là, maintenant, vous vieillissez, et vous les avez fait... Le temps 3, c'est le matin.
Moi, je ne bois plus de calva, je ne bois plus de vodka non plus, je ne bois plus de whisky, je ne bois plus que du vin et de la bière. Non, mais c'est-à-dire que c'est pas l'alcool, d'une certaine manière, qui crée cette douceur intérieure aux gens. L'alcool fait sortir cette douceur-là. Mais la brève, et puis l'amitié n'est pas créée par l'alcool. L'amitié est rendue possible par l'alcool parce que ça désinhibe. Mais les gens, ils ont envie d'être ensemble. C'est pas l'alcool qui fait qu'ils se mettent ensemble. Ça permet de pouvoir passer des heures entre potes sans avoir peur. Ça enlève la peur, voilà. Et donc ça nous permet d'aller loin dans les rapports humains et surtout dans la gentillesse, parce que c'est un truc qui nous fait très peur, ça. C'est beaucoup plus facile d'être un salaud que d'être sympa avec les gens. Et là, tout d'un coup, il y a une espèce d'amitié très jolie qui s'installe, une fraternité de bar autour d'un petit verre, et c'est le petit verre qui permet aux gens de se laisser aller à s'aimer, ça c'est sûr.
Mais ce que vous dites là, monsieur, me fait penser à Baudelaire. Baudelaire, ouais. Dans son poème « Spleen ». Justement, oui, l'homme boit et se désinhibe complètement, rêve et en fait communique avec le lecteur.
Oui, et Blondin, il y racontait ça aussi très bien. Blondin, que je connaissais, je buvais des coups avec lui à la Vieille Grille à Paris. Eh ben, incroyable, quoi. Incroyable, quoi. Ben, un Serge en hiver, c'est que ça. C'est qu'un vieux bougon avec un jeune qui picole. Et puis, ces deux univers qui sont éloignés, qui finissent par se rapprocher autour d'un verre de vin, et ça finit en feu d'artifice.
On l'a passé tout à l'heure, les princes de la cuite, ouais. Les seigneurs.
Vous en avez pas marre de traîner dans les bars, Jean-Marie Gouriot. Est-ce qu'il vous a fallu encore beaucoup de temps pour récolter les perles du tome 3 de ces brèves de comptoir?
C'est-à-dire que le bistrot, ça fait partie de ma vie. J'y vais tout le temps. Ça fait pas tous les jours, je vais au bistrot. Je vais boire un café le matin. Quand j'ai des rendez-vous, j'arrive un peu en avance, je vais au bistrot. C'est-à-dire, je vais pas au bistrot pour les brèves. Je vais au bistrot pour aller au bistrot. Parce que j'adore ça. Donc, je compare à quelqu'un qui prendrait le métro tous les matins pour aller travailler et qui noterait les phrases que les gens disent dans le métro. On va pas lui dire, vous prenez le métro tous les jours pour écouter ce que les gens disent. Et ben, moi, c'est pareil.
Enfin, t'aurais pas pu faire le bouquin si tu venais à Montauban Bistrot, t'entendrais moins quand même de profondeur et ou de conneries que dans les rades de Paris, quoi.
Ouais, mais c'est pas les rades de Paris, c'est pas que les rades de Paris. Là, par exemple, je suis en Haute-Savoie, là. Je suis à Talloire, à côté d'Annecy. Annecy, par exemple, il y a trois fois par semaine, il y a un marché magnifique. Avec plein de bistrots, la buvette du marché et tout ça. Ben, j'entends des choses magnifiques. Quand je vais à Béziers aussi, j'ai un pote à Béziers. Quand je vais à Marseille, j'ai des potes. Quand je vais à Lille, c'est un peu partout. En fait, le bistrot parisien, déjà, il disparaît beaucoup.
Et ça disparaît, hein.
Franchement, les bistrots parisiens, il y a plus de banques et de marchands de téléphones portables que de bistrots aux angles maintenant. Et en plus, les bistrots changent, c'est-à-dire que les comptoirs disparaissent. Ça devient des dessertes. De façon à ce que les clients s'assoient soit en terrasse, soit en salle, parce que le prix, il est multiplié par deux ou par trois. Donc à ce moment-là, il y a beaucoup, beaucoup d'endroits où moi j'allais dans des bars qui n'existent plus, ou alors comme la Palette à Paris, qui est un bistrot formidable où elle est au port, il y a la Palette sur le comptoir, il y a marqué ce comptoir sert maintenant de dessert. Hein, voilà, alors que c'était un bar.
C'était un bistrot, c'était un rad, oui.
Mais est-ce qu'on court pas un petit peu après la culpabilisation finalement de ces gens qui prennent du temps dans les bistrots et qui boivent l'apéro et qui se réunissent entre copains et qui y restent? Est-ce que ça fait pas partie de ce changement de société qui fait que maintenant on a un petit peu honte aussi de s'enivrer de plus en plus, quoi? On le montre
là,
plus.
Il y a un changement de société depuis longtemps. Avant, il y avait 500 000 bistrots en France au début du 20e siècle, je crois. Et maintenant, on est à 39 000. En 2009, on était à 39 000. C'est incroyable. Et en 2009, donc là, il en est fermé, je sais pas encore combien. Donc il y a quand même, donc, il y a désertification des campagnes.
39 000, dont 30 000 en Bretagne. Non, je blague.
Dans une rue. Rue de la Soie, 39 000. Et donc, avant, quand vous aviez les vendanges, vous saviez que le bistrot, ça va être le bistrot les vendangeurs. Quand vous aviez les moissons, vous avez le bistrot les moissonneurs. Les plâtriers, les machins, en ville, à Paris, il n'y a plus un artisan. Moi, j'allais rue du Verbois, à côté d'Arts et Métiers. Je buvais des coups à l'époque avec des mecs qui sentaient la colle à bois, qui avaient plein de copeaux de bois sur les épaules. Et là, je buvais mes petites bières, les mecs qui parlaient boulot, ils avaient les mains toutes rouges, pleines de sueur. Ils avaient de la sueur dans les bas du pantalon. Ben, allez rue du Verbois. Maintenant, soit c'est une banque, soit... Et il y a eu la transition, c'est que le patron, ce con-là, il y a un moment, il a viré le comptoir, il a mis un piano, il a essayé de faire un wine bar pour virer un peu tous les postrons, et puis finalement, il a perdu son bar. Il y a une image incroyable, c'est que j'ai observé comment le mec, il modifiait son bistrot. Donc, d'un bistrot populaire, il a voulu faire un bistrot de bobo. Il a eu l'idée folle de mettre au mur des photos de douaneaux représentant des clodos qui boivent un coup de rouge. Et c'est drôle parce que cette représentation de douaneaux de populaire de mecs en train de boire des petits coups qu'il utilisait pour virer les mêmes vivants.
Des monstres.
Ouais, c'est extraordinaire. Et alors, tome 3 des Brèves de comptoir, combien de temps après 20, 30 ans après le premier, le tome 1, non
Même plus, maintenant ça va faire 27, puisque ça a commencé en 87.
Ouais.
87-2000.
27 ans.
27 ans.
Les brèves changent, ce que racontent les gens change, là aussi, est-ce que non?
Non, non, à partir du moment où c'est la même population, à partir du moment où c'est une, un peu disons les ouvriers, les prolos, à partir du moment où ce sont des ouvriers, ça sera toujours la même parole, toujours la même voix, toujours le même poème, depuis Arletty, c'est le même poème. Vous allez dans un bistrot à Lille, vous entendez une bonne femme, elle parle comme Arletty.
Et ça, c'est vrai. Ouais.
Alors, évidemment, si le bistrot sans bourgeoise, déjà, il n'y a plus le comptoir. Déjà, le prix fait que on peut avoir, justement, vous parlez de Jurançon, un verre de Jurançon, mais là, il a combien? Il va être à 9 euros à table. Donc là, tout d'un coup, c'est fini, les mecs, ils explosent, ils peuvent pas. Un verre de Bordeaux à Paris au comptoir, il est déjà 6 euros, 5 euros, c'est la folie.
Ouais, il n'y a plus le petit blanc ou le coup de... Le coup
aussi,
du prolo,
quoi. Mais si on veut, par exemple, un verre de Chablis ou un verre de Sancerre, alors là, ça part dans les 5 euros. Ouais. Alors, c'est pas possible quand on est à 4. Hein. On se prend 4 petits verres de Chablis, on est à 16 ou 20 euros déjà. 16 euros ou 20 euros, c'était 4 repas ouvriers dans un routier. Ouais. Donc, c'est plus pareil.
Ça fait cher la cuite, effectivement, si on a envie de se...
À partir du moment où on reste avec une population de gens qui bossent, qui sont sur des chantiers, le facteur, même les flics et tout. Moi, j'ai beaucoup tourné avec les flics à Paris. Attention, les mecs qui boivent des coups, c'est des ouvriers. Les flics de Paris, les mecs des bacs, c'est des ouvriers quasiment. Donc, les mecs qui boivent des coups, etc. Donc, à partir du moment où il y a ce tissu social-là qui reste, le bistrot, il tourne. Mais s'il n'y a plus le boulot, s'il y a plus... Après, ça se transforme à... Alors, c'est un bar à touristes. C'est ce qu'ils appellent un bar philo. C'est-à-dire que dans la salle du fond, il y a 5 gueux qui parlent de philo, en buvant je sais pas quoi, capté. Donc ça n'a plus de fonction, quoi. Ou alors c'est un bar ceci, un bar cela, non. Donc il faut qu'il y ait du boulot, et il faut qu'il y ait des bistrots. Et à ce moment-là, vous aurez la Brève de comptoir et la Parole populaire. Vous aurez encore Prévert, vous aurez Douaneau, vous aurez Arletty, vous aurez Renoir, vous aurez tout ce que vous voulez. Vous aurez Blondin, à partir du moment où les gens y bossent, ils boivent des coups.
Eh ben voilà, on trinque à votre santé,
Jean-Marie. Métro, boulot, bistrot.
Voilà, donc je rappelle votre roman Sextoy qui est sorti déjà en septembre, et puis les Brèves de comptoir numéro 3, le tome 3 là, qui sort là ces temps-ci, hein, ça, c'est en train d'arriver là.
Voilà.
Merci d'avoir été avec nous dans Qu'est-ce qu'on déguste.
Eh bien écoutez, pas l'ivresse à tous.
Merci,
au revoir.
À bientôt, salut.
Et ben la suite, c'est après les infos.
CFM.
Mais qu'est-ce que vous bricolez? Ça fait une heure que je vous fais sonner. Vous avez pas entendu la corne?
Si, mais je peux pas venir.
Mais pourquoi?
Parce que j'ai un petit peu picolé.
Qu'est-ce qu'on déguste avec Vinovali, cave de Técou et des vignerons de Rabastens? Vinovali, les vignerons d'Ovalie.
Prend le cours de cette émission spéciale ivresse. Qui c'est qui nous raconte sa première cuite? Ah ben c'est votre tour. Hein,
Je viens.
Allez-y.
Bon, alors j'ai pris pas mal de cuites. Je suis ancien élève des Beaux-Arts à Limoges et après en fac d'histoire. Bon, alors vous comprenez que dans les deux établissements, on n'était pas spécialement des enfants de cœur. On n'avait pas l'arrêt de cheveux au milieu.
Vous l'avez pas venir. Non plus aujourd'hui.
Non plus. Et des cuites, on s'en est prise. Mais je me souviens que de retour du Liban dans l'armée française, bon, au 17e RGP à Montauban, un soir, on me demande « Padré, chante-nous quelque chose !» J'étais déjà parti en état second mystique. Bon, et je monte sur la table, je chante le curé de Camaret à
qui parle, ouais.
D'accord, bon...
Ouais. Venant de l'aumônier, c'est bien.
J'étais tellement bourré,
c'est mon sang, hein.
Que le lendemain matin, je me suis retrouvé en uniforme sur mon plumard, porté je ne sais pas comment ni par qui, mais alors ça sortait par devant et par derrière, hein, je peux vous dire. Bon, c'était l'horreur complète. Et j'ai pas pu me présenter au drapeau. Ça, c'était impossible.
Voilà, la première grosse cuite de l'abbé Vachereau de Caylus. Quand vous irez à la messe dimanche, vous le lui rappellerez.
Oui, hein, d'accord.
Couleurs, là. Bon, t'es en couleur, là. Oui, putain.
Un petit peu de jazz, tiens, ça fait longtemps, Georges.
Ah oui, aujourd'hui, on n'a pas eu trop de jazz. Bon, il faut dire qu'il y a beaucoup de monde autour de la table, et puis l'émission est intéressante. Mais la musique se joint aussi à la consommation de boissons alcoolisées, parce que sur un fond musical, ou même le jazz, a permis à pas mal de gens de se retrouver autour d'un verre. Et ce soir, j'ai choisi de musique qui est d'ambiance et qui permet aussi de boire et qui est assez festive. C'est la bossa nova et j'ai choisi Stan Getz. Stan Getz, dans les années 60, s'est intéressé à cette musique du Brésil. Il a enregistré un disque qui s'appelle Girl from Ipanema. C'est le morceau que l'on va choisir. Normalement, Girl from Ipanema, le morceau s'appelait La Garota de Ipanema. La Garota, c'est la jeune fille. C'était une jeune fille qui, tous les matins, allait à l'école, qui avait une 15-16 ans, et que Vinicius de Moraes et Carlos Jobim, pendant leur petit-déj, voyaient passer tous les jours. Et un jour, ils ont écrit un texte sur cette fille. Alors le morceau que nous allons l'écouter maintenant, la première partie est chantée par João Gilberto en portugais, puis la deuxième partie par sa femme Astrid en anglais.
Moça do corpo dourado do sol de Ipanema, o seu balançado é mais que poema.
Oui, c'est vrai que là tu peux trinquer là-dessus tranquillement.
Oh. C'est le moment d'emballer.
Eh ben, il faut pas ouvrir cette bouteille là.
Mais si, on va l'ouvrir, j'ai pas de tire-bouchon.
Ah, il est là. Mais c'est le gars du jazz.
Ah, il est comme Jean Carlet, il a toujours un tire-bouchon dessus. Sur lui.
Ah, porque tudo é tão triste.
Ah, je vais tester celui-là.
J'ai le même.
Oui, ça marche bien.
C'est bon, mais t'as tout.
Ouais, j'ai le même.
Pour décoller.
Ah, tu vois, j'ai le même.
Et la cuillère. Tout pour on va demander ma première cuite, une cuite dont je me souviens.
Oui, parce que c'est que je me souviens.
Il y a les autres.
O mundo sorrindo se enche de graça e fica mais lindo por causa do amor. Tall and tan and young and lovely, the girl from Ipanema goes walking. And when she passes, each one she passes goes. When she walks, she's like a samba that swings so cool and sways so gently that when she passes, each one she passes goes ah. Oh, but he watches so sadly.
Raconte-nous, on va garder The Girls from Ipanema en fond comme ça pendant que tu nous racontes. Une cuite mémorable, Georges. La première étant trop loin, on te fait...
Oui, là, c'est une cuite plus récente. La première, j'ai dû la voir vers 16 ou 17 ans, comme tout le monde. Mais là, c'est un peu plus tard, une dizaine d'années plus tard. Je me retrouvais avec des amis, mon épouse, on s'était retrouvés en Espagne, à Blanes, dans le nord du Pays Basque. Et comme tout le monde était fatigué du voyage, les épouses ont été se coucher avec un ami dont je tairai le nom par pure charité chrétienne. Nous avons fait le tour des bodegas. Alors, dans ce village de pêcheurs où la spécialité est la sardine, on mange des sardines, en même temps on boit du cidre. On boit le cidre, mais le cidre espagnol, c'est pas du tout le même cidre que
basque.
C'est le cidre basque, c'est un cidre qui est très acide et on le sert pour deux personnes dans un grand verre, un grand vase, et le serveur tend la main au-dessus de sa tête, il fait un jet de 1,50 m.
Oui, parce qu'il n'est pas pétillant, du coup
parce
il fait pétiller.
Parce qu'il n'est pas pétillant, du coup il pétille. Et on boit le temps qu'il pétille, on le boit, on boit deux dans le même verre, et puis le fond qui reste,
on le jette.
Le demi-centimètre, on le jette. Et chaque fois, c'est mouté 75 centilitres. Et entre 9h du soir et 2h du matin, on a dû faire une dizaine de bistrots, amusés par ce style de service de restauration. Mais une fois rentré dans la chambre, Aïe, aïe, aïe.
Alors, c'est aux Asturies, c'est le cidre des Asturies. Mmh. La région qui est au nord, au nord de, du Portugal, mmh. et non pas au Pays Basque, mon cher ami.
Non, c'est Oviedo.
C'est entre le Pays Basque et le...
Ils font du cidre sur toute la côte. Cantabrie, ouais. Asturies, Pays Basque.
J'ai un quiz rapide, un petit quiz rapide.
Un quiz.
Ça vous va ? Un petit quiz sur les chansons qui parlent d'alcool. Hein ? Mmh. Elles sont toutes très connues. Allez, c'est parti, on lance le premier.
Miosec.
Oh, bravo ! Le titre ?
Sur le premier album, la Saint-Valentin.
Hein ? Non, je ne suis pas sûr. Miosec, bravo Christophe.
Bravo Christophe.
Allez, second.
Hier au rendez-vous des amis, oulala, je me suis mis minable.
Renaud, mais quel est le titre ?
Quel modèle ?
Et comme ça, j'en prends qu'une par an, à la Bastille, le dîner au soir, ou encore les jours d'enterrement, ce qui est plus rare. Je me souviens même plus qu'on fêtait, mais on n'a pas bu trop de tisane. Ce matin, j'ai eu une casquette plombée sur le crâne.
Ah ouais.
Ça vous est revenu la couille. Allez, suivant.
Parfait au montage, vous me voyez surpris.
Mais c'est étonnant, personne ne connaît ça.
Trouver mon lit.
Le titre, non, mais
Pierre Vacherot.
Parfait au montage.
Enfin,
c'est Brel.
Le grand, le jamais inégalé Jacques Brel. Agen, c'est tout.
Ah bon ?
Mais bien sûr, c'est un morceau terrible.
Tu nous as demandé les titres, Jacques Brel.
Ouais, c'est ça.
Combien d'années chez les Jazz ?
Les petits bistrots au pinard fleuri.
Charles René ?
Non.
Les biftecs.
Les petits bistrots.
Petite moustache.
Où l'on vient goûter.
Cheveux blancs. Moustache blanche.
Le premier café.
Ah,
Ferrat. Et attention, celui-là.
C'est quoi le titre ?
Celui-là, si vous le trouvez, franchement, c'est moi qui paye ma bouteille.
Je paye le lit.
L'alcool. Voilà l'alcool.
Les frères Jacques.
Non.
L'affreux vitriol.
L'alcool.
L'odieux pétrole.
L'alcool.
Qu'on jette derrière le col.
L'alcool.
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 Partout c'est la triste farandole de l'alcool. Il me semble que vous buvez beaucoup, petit voyou. Et vous, là, il me semble que vous ne vous privez pas, mon petit gars.
Qui pourrait avoir écrit ça, à ton avis ?
Francis Blanche.
Oui, bravo.
Francis Blanche. Et bravo. Alors, les branquignoles.
Les quatre barbus.
Ah, les quatre barbus.
Ensemble, ils vous doivent.
C'était quatre architectes, les quatre barbus. C'est vrai, ouais. Quatre barbus, c'était les gars sortis de l'école de l'école des Beaux-Arts de Paris. Mais c'est le texte de Francis Blanche, je m'en souvenais, j'avais déjà entendu ça, mais ça me faisait penser un petit peu les frères Jacques, c'était un peu ça.
C'était les quatre
merci,
barbus.
Merci, hein, encore les élèves des Beaux-Arts, mais on va oui, plus passer pour des pochons. Hein.
Oui, il y en a eu beaucoup.
Oui. Eh ben voilà, on est arrivé au bout de ce quiz, et on en arrive donc... Très rapidement, la cuite de Gaël qui nous raconte.
Bah, je vais changer un peu par rapport aux autres. Je vais pas parler de la première. Je vais parler de celle qui, la seule, qui m'a empêché d'aller bosser. C'était une soirée d'anniversaire. Je pense que c'était mes 30 ans. Et une soirée avec des amis dessinateurs. Et puis, à un moment, il manque un petit peu d'alcool. Il y avait un comptoir irlandais. J'habitais à Paris à l'époque, pas très loin. On est allé acheter du whisky qu'on a fini. Et on a continué à parler et tout allait très bien et j'ai fait l'erreur de me coucher, j'ai dormi 30 minutes et quand je suis allé me raser, tout s'est mis à trembler autour de moi et j'ai appelé à mon boulot, j'étais libraire à l'époque pour dire que je ne viendrais pas, Sauf que ce jour-là, il y avait un représentant qui était convié à mon anniversaire, qui s'est présenté. Il m'a dit, mais oui, Gaël, je l'ai vu hier soir, il allait très bien. Et voilà. Et griller, je me suis fait griller. Non, j'ai pas été viré.
Allez, tant que tu as la parole.
Bah,
oui, pardon.
Vas-y, alors, continue.
Petite coïncidence, donc on a eu Jean-Marie Gouriot tout à l'heure qui a été rédacteur-chef adjoint à un moment de Harakiri. Et donc moi je vais parler d'un truc du professeur Choron. Donc une petite opérette qu'il a écrite parce que ce monsieur, comme Georges s'en va, en finissant son verre.
Bon, mais on fait des bises à Madame Georges qui doit l'attendre dans la voiture en écoutant la radio là.
Claudine, elle doit être en train de faire un millefeuille, je pense. Donc on l'embrasse. Voilà. Et donc je voulais parler du professeur Choron qui entre deux cuites écrivait aussi des opérettes. Alors celle-ci s'appelle Ivre mort pour la patrie. Donc qui a été diffusée en 98 sur Canal+. Et l'opérette, alors elle se déroule dans un petit village d'Argonne pendant la Seconde Guerre mondiale et on entend ça. On aurait pu entendre Ariel Dombal, mais je vous ai évité ça.
Ça n'explique pas comment.
Je crois que c'est quand même elle un peu au
début. Être mort et vivant.
Vous me croirez si vous voulez. Après la bataille, je gise.
On va s'écouter.
Oh non,
si. On va écouter ça. Ah si, parce que la chute est importante.
Et en train de faisander. Pour tout le monde, j'étais mort alors que je n'étais librement.
Voilà, donc librement pour la patrie. Voilà, alors Choron, il raconte un peu avec son habitude un petit peu déjantée ses souvenirs d'enfant de garde-barrière, la Deuxième Guerre mondiale, ses horreurs, les trains qu'il a vus durant ces années-là, partir vers l'Allemagne et tout ça. Alors de nombreux amis ont participé à l'aventure, notamment des amis d'Harakiri et de Charlie Hebdo, en particulier Vimin, c'est lui qui avait fait les décors, Ariel Dombal, donc comme on a pu l'entendre. Et il y avait aussi un certain nombre de gens qui ont fait ensuite ce qui est devenu Canal+, notamment Alain Chabat, Jacques Hyber-Royer, Jules-Édouard Moustic, Charlie Schlingo, donc dont j'aurais voulu parler aussi, qui est un auteur qui est décédé en 2005, qui avait écrit aussi un bouquin qui s'appelle Patron, une cuite s'il vous plaît. Et je vous invite à lire un bouquin sur Charlie Schlingo qui s'appelle Je voudrais bien me suicider mais j'ai pas le temps, écrit par Jean Tellet et dessiné par Florence Sestac. Voilà, c'est édité chez Dargo et tout ça c'est sur l'ivresse et sur la carrière, et ça empêche pas l'ivresse, comme on l'a dit tout à l'heure, les rassemblements et beaucoup de talent. Et voilà, donc un petit hommage à tous ces gens-là.
Merci, ouais. Gaël. Vous vouliez la parole.
Je l'ai demandé parce que bon, j'en ai porté un témoignage.
Je sais pas jamais comment vous appelez à chaque fois.
Bernard.
C'est facile.
Le curé de Cahuzac.
Non, mais j'ai pas vous appeler. Alors, l'abbé.
Je voudrais porter un témoignage. Bon, sur l'ivresse, l'alcool et les réunions de copains. Bon, je suis franco-libanais, j'ai vécu la guerre du Liban, et entre autres, j'ai travaillé aussi dans les prisons, comme aumônier de prison, éducateur de rue, etc. Et à un moment, j'ai été amené à être aussi aumônier d'hôpital quand il y avait les bombardements. Donc, certaines soirées à l'hôpital, avec les infirmiers, les infirmières, les Croix-Rouges, les Salib Ahmar, c'est le Croissant-Rouge, bon... Franchement, on en avait ras-le-bol, parce qu'il y avait que des blessés, des cadavres que l'on voyait toute la journée à l'hôpital. Bon. Et certains soirs, je me rappelle, c'était à l'hôpital de Big Faya, à Bramness, bon. On partait dans une petite épicerie, acheter des bouteilles de whisky, de tout ce que tu veux. Et c'est vrai qu'on faisait une fiesta. Alors, une ou deux fois, chez nous, là-bas, on porte la soutane. Je suis grec, melkite, catholique, porte la soutane orthodoxe, c'est-à-dire. Et donc, je la portais, et il y a des gens qui m'ont dit, « Ouais, alors comment vous, un prêtre, vous buvez avec ces gens et vous dansez ?» Parce qu'on dansait avec les filles qui étaient là aussi, bon. Alors, je lui ai dit, « Écoutez, j'en ai ras-le-bol de vos conneries. Parce que vous comprenez, nous, on ne voit que des cadavres toute la journée ou des blessés. On nettoie le sang, on nettoie tout ça.
Et finalement,
alors le soir, on a envie.
Vous avez pété la pression.
De se défouler.
D'oublier un peu.
Et on le fait. Ben, je crois que justement, au fond, de temps en temps, faire la fête est une nécessité. On se retrouve entre copains, copines, et on défoule tout ce qu'on a de trop sur le cœur. Hein. Je pense que c'est important.
problème, mon cher curé de Caylus, Bernard Vacherot, quand on fait ça, le lendemain, on a la gueule de bois. Et c'est justement le sujet du bouquin que nous présente Christophe.
Après l'ivresse arrive ce redoutable moment qu'est la gueule de bois, qui est appelée aussi casquette de plomb. Xylostome, ça c'est le nom scientifique.
Oh, le xylostome.
Et oui, tout
ce matin, voyez-vous, voilà.
Ça ressemble au xylophène.
Même expression parfois imagée, souvent poétique pour l'état nauséeux suivant d'excessives libations. Orlando de Ruder, je pense que c'est un pseudo, fait le tour de la question en quatre parties dans ce bouquin. Avant la prise d'alcool, pendant, juste après et ensuite. Avant, alors prévention de l'ivresse grâce à différentes méthodes qu'on connaît tous, hein, boire de l'huile, consommer de la quinine, des œufs, des olives, des amandes.
Bon. Des gaiement. Amandes, on en a après, mais on parle des amandes bleues.
Un cassoulet.
Oui, voilà.
Des conneries.
Autant de substances qui peuvent aider à tenir le coup, il suffit d'y croire. Pendant, bien sûr, il ne faut pas être à jeun, il faut se faire vomir tels les Romains, il faut savoir ce que l'on boit, éviter les mélanges, savoir quel alcool on supporte, hein. On a vu qu'il y en avait certains qui ne passaient pas pour nous, s'hydrater. Après, différents cocktails sont proposés dans ce bréviaire de la gueule de bois, car c'est le nom de son bouquin. Le plus connu de ces cocktails après cuite, c'est le Bloody Mary, hein. C'est du gin ou de la vodka avec du jus de tomate.
Bloody Mary, oui.
Ouais, Bloody Mary, bon, là aussi...
Ouais, une branche de céleri pour remuer le tout, là.
Voilà, avec un peu de céleri. Ouais.
Des légumes.
Céleri.
Il faut des légumes.
On nous propose même des vomitifs, si on n'en peut plus, tels que le savon de Marseille. Ça, ça va prendre au second degré, parce que le bouquin est assez drôle. Et une autre partie de cet ouvrage, eh bien, c'est comme l'émission de ce soir, ça nous parle d'alcoolisme, de ses différentes étapes, de la place de l'alcool dans la société, qu'est-ce que l'alcool, pourquoi buvons-nous, qu'est-ce que l'ivresse, donc notre sujet. Il y a aussi un passage sur l'abstinence dont Rémi peut nous lire quelques lignes.
Ah bon, je croyais que tu allais dire dont Rémi peut nous parler.
Oui, à moi, par an.
Non, mais justement, c'est intéressant d'avoir quelqu'un qui connaît l'abstinence ici. L'idée d'abstinence...
Pas d'alcool.
Est très ambivalente, j'ai pas dit d'alcool.
Ouais.
L'idée d'abstinence est très ambivalente. Sur le plan sexuel, elle a ses adeptes, sa doctrine. Pour ce qui est de l'alcool... Elle peut aussi constituer un sacrifice pour éloigner de mauvaises influences, qu'elles soient temporaires, comme tel ou tel carême, ou définitives, provenant d'un vœu, nous nous trouvons en présence d'une démarche plus ou moins religieuse ou rituelle. Un certain matérialisme a voulu découvrir dans les pratiques du jeûne ou d'abstinence un souci hygiénique. Sans vouloir le nier complètement, disons que ce genre d'explication est un peu court. Comme les interdits alimentaires, l'abstinence est un phénomène complexe qui ne peut se comprendre dès qu'on le simplifie. Religieusement, elle est une tentative pour atteindre le caché, le non manifesté. Cette vision positive ne doit pas nous faire oublier qu'elle est aussi un refus du réel du monde tel qu'il est, et surtout de notre propre personnalité que nous dévaluons ainsi, puisque nous la considérons comme souillée par le plaisir. L'abstinence, qu'elle concerne le sexe ou l'alcool, c'est toujours un effort constant contre le bonheur, la vie, la joie. Voilà, pardon pour la fin, j'avais perdu la phrase.
Pour ta sort, nous ne sommes pas ivres.
Non.
Un tour d'horizon sur la gueule de bois et l'ivresse, documenté tout en ne se prenant pas au sérieux, ça s'appelle le bréviaire de la gueule de bois, c'est signé Orlando de Ruder.
Moi, je suis étonné, moi j'avais 12 ans à ma première cuite.
Oula!
Oui, vous me paraissez un petit peu. Vous vous dites oui, comme tout le monde, 16, 17 ans. Non, moi j'avais 12 ans. J'avais
vidé. C'était l'accident.
J'avais absolument pas. On s'était retrouvés un mercredi après-midi, on s'ennuyait avec un petit copain chez lui. Et on a décidé de vider le placard des apéros des parents du copain. Et comme il y avait des petits alcools super doux au début, on a trouvé ça vachement bon. Le Malibu, des trucs très avec une sucrosité vachement forte, tout ça, on a commencé par là. Et puis, quand il n'y en a plus, du Porto, des trucs comme ça, eh ben on a continué, on est arrivé aux eaux de vie, on a vidé plein de trucs. Et évidemment, bon, ça s'est mal fini.
Ah oui,
et évidemment, on a été très très malade. Évidemment, on devait sortir le soir. Non, personne ne l'a vu parce que on a pris une douche pendant 2 heures, une douche d'eau froide avant de retourner chacun chez soi et rencontrer nos papas et nos mamans. Mais j'avais 12 ans.
Non, mon rectificatif, c'est la première, je devais avoir 5 ou 6 ans. Et j'ai bouffé. Ah ouais, non, je m'en souviens. Non, j'ai. j'ai bouffé des, c'était un mélange de grains de cassis et grains de framboise que ma grand-mère avait fait macérer depuis 3 mois ou 4 mois dans de l'alcool. Elle l'a sorti pour récupérer l'alcool. Il y avait ce truc avec ces fruits qui traînaient. Et j'en ai mangé. Et puis, je suis tombé raide. Voilà. Donc, j'étais, lourds antécédents.
Et on est encore, on fait encore partie de ces générations où on mettait un petit peu de vin au fond de l'eau pour habituer les gamins, pour avoir une éducation à
au vin,
au vin et à l'alcool.
Il fallait voir les excédents.
Ouais. C'est...
Mais tu sais
en
que
tout cas, ça a marché. On est tous assez bien habitués.
Ouais.
Dans certaines régions, le jour du baptême, on mettait une goutte de vin. Et un petit peu de sel aussi aux lèvres du baptisé. Hein.
Ou du champagne.
Oui. C'est Henri IV. Henri IV a été baptisé avec du Jurançon.
Au
Jurançon,
oui.
Ça me joue.
Dans sa coquille de tortue.
Moi, j'ai pas pris ça à l'école.
Bon. Ah ben voilà, on arrive au terme.
On a plus le temps pour une recette.
Si, il nous reste du temps pour une recette. Une minute.
Oh là là, le lapin ivre. Moi, j'avais entendu cette recette d'un vieux paysan à côté de pas loin de Saint-Étienne de Tulmont, qui donnait régulièrement quelques gouttes d'oignol. Il mettait quelques gouttes d'oignol dans l'eau de ses lapins pour éviter que l'hiver l'eau gèle. Mais les lapins, ils s'y habituaient. Et lui, il avait trouvé que de temps en temps, il avait la main un peu lourde. Il trouvait que le lapin, il avait bon goût. Et puis, de temps en temps, avant de tuer le lapin, il lui filait une rasade d'oignol, ça étourdissait un peu le lapin. Il avait moins de scrupules à tuer son lapin, donc moi, je l'ai un petit peu transformé, et on va faire un lapin, j'appelle ça le lapin ivre. Donc, si vous n'avez pas de lapin au fond du jardin, ben vous allez acheter 2 borables au marché. Vous les faites mariner pendant 2 heures dans un alcool type Calvados, fine blanche d'Armagnac, donc l'Armagnac qui n'a pas été dans le bois, ou une gnole de prune. Mais évitez les trucs trop sucrés, enfin, ou trop avec trop de parfum, type poire, etc. Faites mariner ça pendant 2 heures, vous le sortez, vous le passez dans une cocotte, vous le passez au beurre avec un peu de l'oignon, de l'échalote. Après, vous le débarrassez, vous le mettez dans une cocotte et au four pendant 1 heure. Four 190 degrés pendant 1 heure. Vous le faites cuire à l'étouffée. Pendant ce temps-là, vous déglacez votre sauteuse avec un petit peu de marinade. Vous montez ça à la crème, vous sortez votre rable, vous le tronçonnez et vous le nappez avec votre crème, juste comme ça. Et vous servez ça avec une purée de pommes de terre à la fourchette et c'est délicieux.
Ça s'appelle le lapin.
Merci. Moi j'appelle ça le lapin ivre.
Eh ben voilà, bravo. Merci Pascal Olivier. Je
vous
tiens.
Vous nous invitez à ça. Bon, oui, on peut faire ça, c'est pas très dur.
Je tiens à remercier particulièrement le curé de Caylus, Bernard Vacherot. Merci d'être venu participer à cette émission.
Merci de m'avoir invité aussi. Bah, et surtout de boire des bons verres comme ça.
Ah, on boit toujours des bons canons, qu'est-ce qu'on déguste.
Merci Rémi de nous avoir amené du Jurançon.
Merci à vous.
C'est journée porte ouverte au Jurançon bientôt.
Le 9 décembre, en dessous de Pau, la route du Jurançon, 46 vignerons ouvrent leurs portes. Donc vous avez le choix parmi 46 viticulteurs, 46 vins. Mais moi je serai au domaine Bordenave à Monin, donc rendez-vous là-bas.
Merci Gaël, merci Christophe. À la semaine prochaine.
Je vais faire un petit tour au Toulouse Game Show.
Ciao.
Salut.